On a avec nous Bertrand Garlot, on a avec nous également Michael Gandon et puis un jeune sapeur-pompier, David Hardy, et ils vont nous expliquer un petit peu ce que c'est que d'être sapeur-pompier et puis ce qu'il présente ici. Bertrand Garlot, concrètement, quel est le sens de la présence des pompiers de Ciel-Guillaume ici sur une manifestation comme ce comice ?
Donc notre sens est de montrer notre savoir-faire en matière de secours routier. La présentation de notre matériel et puis cette année nous faisons toucher nos outils par les gens qui sont intéressés et nous essayons également de recruter puisque à l'heure actuelle tous les centres de secours sartois sont à la recherche de personnel volontaire et le centre de secours de Sillé également.
Alors je précise que si vous entendez quelques bruits derrière en même temps, c'est que je vous rappelle, nous sommes donc en direct, il y a l'hélicoptère qui décolle parfois ou qui vient se poser, il y a le spectacle en même temps, Alors, c'est pas que on a laissé tourner quelque chose, non, il y a une vraie animation qui se déroule. Michael Gandon, donc vous êtes vous plutôt spécialisé dans les questions de secours routier, vous êtes pompier professionnel.
Oui, effectivement, oui.
Mais pas à Ciel-Guillaume.
Pas à Ciel-Guillaume.
Parce que c'est pas possible.
Il pourrait être pompier dans le département de la Sarthe, oui.
Mais pas à Ciel-Guillaume.
Pour Ciel, il est volontaire. Et il est également professionnel dans un autre département, à côté, dans l'Orne.
Alors, Michael va nous expliquer justement comment il est devenu pompier comme ça. Pourquoi et comment ça s'est fait?
C'est très simple. On m'a dit, mon papa m'a demandé un jour si ça m'intéressait de devenir pompier. J'entreprenais à l'époque des études pour être enseignant.
Un bien joli métier.
Oui, je l'ai oublié. Enseignant en physique chimie, et puis j'étais même arrivé à la fac. Et on m'a demandé de venir voir si ça me plairait pas d'être pompier volontaire. Je suis rentré pompier volontaire, et au final, j'ai été mordu par le virus, et j'ai annoncé à mes parents que je ne voulais plus être enseignant, mais pompier. Voilà. Et du coup, je suis devenu pompier professionnel quelques années plus tard.
Et alors là, il y a une formation à faire en plus de l'expérience que vous aviez déjà, parce que je suppose qu'il doit y avoir un savoir-faire qu'on doit vraiment bien maîtriser intégralement en tant que pompier. Il doit être amené à encadrer aussi après.
Il y a une formation initiale qu'on fait en tant que professionnel qui dure entre 3 et 4 mois suivant les départements, où là, on nous enseigne toutes les bases du sapeur-pompier en tant qu'équipier. Voilà, donc une formation une fois qu'on a le concours. Alors il y a plusieurs accès aujourd'hui. On peut soit passer le concours pour devenir pompier professionnel, soit lorsqu'on est sapeur-pompier volontaire, on peut avoir un accès facilité pour devenir sapeur-pompier professionnel.
Quelles sont les contre-indications qu'il peut y avoir éventuellement pour être pompier? On sait qu'il y a des métiers dans lesquels, je pense par exemple, pilote d'avion ou dans l'armée, où il y a des critères pour pouvoir entrer chez les pompiers. Est-ce qu'il y en a aussi?
Oui, il y en a effectivement qui sont physiques.
Ouais.
La taille, je crois que c'est 1m58, je crois. Bertrand peut confirmer.
Oui.
1m58. Alors il y a la vue. Alors je ne sais plus tellement les critères exacts au niveau de la vue. Il y a un rapport poids-taille et puis il y a une aptitude physique avec des exercices physiques à réussir pour pouvoir.
Et on refait des tests régulièrement d'aptitude.
Alors sapeur-pompier volontaire professionnel, normalement, on doit faire tous les ans une évaluation de notre condition physique.
Voilà. Et si la condition physique ne suit pas, est-ce qu'on peut continuer à exercer le métier peut-être dans un autre cadre?
Alors, je vais être honnête, si du jour au lendemain on se met à prendre en compte ces évaluations physiques, on n'a plus de pompiers, enfin on va pas dire qu'on n'a plus de pompiers volontaires, mais certainement l'effectif diminuerait. Faut pas demander l'impossible aux pompiers volontaires, on est bien content de les avoir. Donc qu'il y ait une aptitude minimale, chose que tous les pompiers, notamment à Ciel-Guillaume, répondent totalement, comme quoi n'importe qui peut devenir sapeur-pompier volontaire. On est obligé de fermer un petit peu les yeux sur certaines conditions physiques.
D'accord. David, on va se tutoyer, on va se le permettre avec la différence d'âge. David, tu as quel âge ?
17 ans,
et tu es donc jeune sapeur-pompier. Ça fait longtemps que tu t'es engagé dans cette activité de service public.
3 ans.
Tu avais 14 ans ?
Oui.
Qu'est-ce qui t'a amené à t'engager comme ça ?
Une passion. C'est venu déjà par ma mère, vu qu'elle était déjà pompier.
Ah oui, quand même alors.
Donc j'ai voulu suivre ses traces, et puis voilà, c'est venu comme ça.
Alors, ça a impliqué de ta part beaucoup de temps à côté des études. Ça te mobilisait des demi-journées ou des heures de formation ou...
Non, parce que après les cours pompiers, c'est juste le samedi matin.
Ouais.
Après, il y a des formations quand on arrive en UV4. Il y a juste des formations pendant les vacances. Donc après, ça prend pas trop sur le temps, on va dire.
Alors, concrètement, tu as 17 ans. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu sais faire ?
Selon mes formations que j'ai eues, je suis habilité à intervenir sur des secours à personne et sur des interventions diverses, comme destruction d'inoctères ou chute de personnes.
D'accord. Et vous êtes nombreux à Ciel Guillaume à être des jeunes sapeurs ?
Nous sommes 21 jeunes.
Waouh, c'est pas mal, hein, en rapport avec l'importance de la commune. Et jusqu'à quel âge on est jeune ? Sois poli, s'il te plaît, avec les gens les plus âgés qui sont là.
Jusqu'à 18 ans.
18 ans ?
18 ans, comme donc, ça après on est opérationnel pour partir en intervention.
Donc toi tu vas quitter ton statut de jeune sapeur-pompier bientôt ?
Oui, l'année prochaine.
Et tu vas continuer ?
Voilà.
Et plus tard, est-ce que tu veux en faire aussi un métier comme Mickaël ?
Moi je voudrais être professionnel.
Ouais ?
Ouais.
Alors professionnel, ça veut dire qu'éventuellement tu partirais ailleurs, dans un autre département, sur une grande ville ou...
Voilà. Je voudrais intégrer le bataillon des marins-pompiers à Marseille.
C'est parce que tu t'intéresses au football ou parce que tu aimes
non.
le climat ou ou alors tu aimes les milieux un peu bizarres.
Non, parce qu'à Marseille on a plus de choix d'intervention parce qu'on peut intervenir en mer.
Ah ouais.
Il y a plein de choix d'intervention.
Ouais, c'est vrai. Et puis que c'est des zones dans lesquelles il se passe beaucoup de choses. La population est très dense, donc évidemment les possibilités d'intervention sont évidemment beaucoup plus nombreuses. Alors, on va revenir sur la démonstration qui est faite ici. On va demander à Bertrand Garlot de nous expliquer le timing de la présence des pompiers ici. Et puis après, Mickaël Gandon va rentrer dans le détail même des interventions.
Oui, donc on a commencé en début d'après-midi par une présentation de notre matériel contenu dans le véhicule de secours routier, hein, et toutes les précautions que l'on prend lorsqu'on arrive sur un accident de la route. Donc on a fait un pavillon, on a fait le calage du véhicule, et ouverture de porte et bascule du bloc avant. Donc après une petite pause aux alentours de 16h15, il faudra venir nous voir au niveau de notre atelier de secours routier, puisque là, la petite Clio qui a été retournée, on basculera la partie arrière du véhicule vers la partie avant.
Alors, Mickaël Gandon, donc, vous êtes spécialisé un peu dans le secours routier, en gros, si j'ai cru comprendre.
Oui, tout à fait.
Bon, est-ce que ça reflète le type d'intervention qu'on peut avoir à faire sur le terrain, dans la réalité ?
Alors je dirais oui et non, puisque aucune intervention ne se ressemble.
Ouais.
On peut rencontrer ce genre de situation avec toutes les difficultés que cela rencontre lorsqu'on va découper le véhicule, dues notamment aux contraintes de la cinétique du choc et puis de la mécanique du choc. Les flexions, les torsions qui vont être exercées sur le véhicule vont entraîner chez nous des réactions et des comportements à adapter pour utiliser la bonne technique. Voilà. Donc on a eu le cas notamment tout à l'heure où sur le relevage du tableau de bord, on a eu énormément de difficultés, il a fallu s'y reprendre 5 à 6 fois pour à la fin choisir une technique qui n'est pas, on va dire, conventionnelle, mais pour laquelle il fallait s'adapter face à la situation.
Alors évidemment, quand vous arrivez, on va parler là, du travail au quotidien, là. Quand vous arrivez sur un accident, quel est le regard que vous devez avoir un regard rapide sur la situation pour juger des interventions et votre responsabilité sur la façon dont vous allez pas essayer de sortir quelqu'un d'une voiture, etc. Enfin, dans quel état d'esprit on est à ce moment-là, à quoi on pense, qu'est-ce qui se passe dans la tête du pompier qui a évidemment une très lourde responsabilité.
Alors, je ne saurais pas comment le décrire. Ce que je peux vous dire, c'est ce qu'on enseigne et les gestes réflexes que l'on doit avoir, à savoir que lorsqu'on arrive, on est conditionné par rapport à notre formation. Donc on sait déjà qu'en sortant du véhicule, dès qu'on arrive, chacun a un rôle. Donc on ne cherche pas à comprendre. Les équipiers, le conducteur va stationner son véhicule, assurer la sécurité incendie, le calage du véhicule. L'équipier va assurer la sécurité du personnel en mettant en place un balisage pour assurer notre protection, éviter le suraccident. Et puis, puisqu'on part à 3 sur un secours routier, le chef d'agré, lui, commencera déjà à réfléchir en accord avec le chef d'agré de l'ambulance sur les moyens de dégagement de la victime, les créations d'accès et en fonction de la pathologie de la victime, des choix vont être faits. Voilà.
Donc, ce qu'on voit ici, c'est quand même des choses. Qu'est-ce que vous montrez ici en démonstration? C'est des situations que vous rencontrez et que vous pratiquez de façon régulière, mais avec évidemment un côté complètement artificiel, car il y a toujours un inattendu, quoi.
Ah, tout à fait. Ah. Et c'est l'adage du secours routier. C'est ce que je dis souvent en formation. En secours routier, il faut à la fois être ingénieux, manuel, puisqu'il faut s'adapter à la situation. Et aucun secours routier n'est identique. Et on a beau prendre deux véhicules identiques en fonction de l'entretien du véhicule, si c'est un véhicule qui dort toujours au garage qui est, ou une autre qui est toujours en extérieur, lorsque l'accident se produira, les techniques forcément qu'on adaptera sur une situation ne fonctionneront peut-être pas sur l'autre.
On dit que sur les accidents les plus graves, les routes départementales sont souvent le plus impliquées. Est-ce que c'est vrai?
Ah, je connais pas trop les statistiques dans ce domaine.
Si, parce que il y a plus de le voie de réseau départemental est beaucoup plus
dense,
beaucoup plus grand que le réseau de voie nationale et l'autoroute. Donc il y a beaucoup plus de circulation sur les départementales. Donc les chiffres à l'heure actuelle, depuis même plusieurs années, montrent que l'accidentologie en France se situe sur les routes départementales.
Et aussi sur les axes fréquentés régulièrement par des personnes plutôt que sur des axes pris de façon occasionnelle.
Et les gens ont un accident sur les axes qu'ils connaissent très très bien, sur justement à 15 à 20 km de leur lieu de domicile. C'est là où les gens ont malheureusement des accidents. Parce qu'ils connaissent bien la route.
Trop en confiance.
Ils roulent trop en confiance. Exactement.
Bertrand Garlot, donc en dehors du secours routier, en gros, est-ce qu'on peut avoir une petite typologie des formes d'intervention des sapeurs-pompiers de Ciel-Guillaume dans le secteur
Alors, que ce soit de Sillé ou même des autres centres, les sapeurs-pompiers interviennent en très grande majorité, je dirais à 60-70% à peu près. Hein. C'est le secours à personne. C'est ce qui fait à peu près.
Donc c'est le malaise, l'accident.
C'est les gens qui sont victimes de malaise, d'accident du travail, de chute.
Par exemple, comme on disait tout à l'heure,
de suicide.
Avec la canicule, une personne qui se sent mal à l'aise, a priori c'est vous qui pouvez intervenir.
On peut intervenir. Alors si c'est sur la voie publique, c'est de notre ressort à 100%. Si c'est un lieu, si c'est à
privé.
Domicile, ça donne lieu à une concertation avec le SAMU et c'est le SAMU qui décide de l'envoi soit d'une ambulance pompier, soit d'un ambulancier privé ou d'un médecin.
Alors les autres formes d'intervention que vous avez?
Après, c'est l'incendie représente 6 à 8%.
C'est en recul les incendies par rapport à ce qu'il y avait il y a quelques dizaines d'années?
C'est stable. C'est stable, 6 à 8%. Le secours routier, bon, j'ai pas trop de chiffres, mais c'est peut-être en baisse depuis ces 10 dernières années où il y a eu beaucoup.
Est-ce qu'il y a des aspects saisonniers? Est-ce que, par exemple, l'hiver est plus redoutable que l'été, justement, sur l'accidentologie?
Bon, je dirais pas forcément, parce que les gens sont prudents l'hiver, donc ça va entraîner peut-être un peu plus. Ça va être les gens qui vont se faire surprendre. Mais généralement, ils sont prudents. L'été, je dirais, il y a plus de monde sur les routes, donc peut-être plus.
Ça s'équilibre, quoi, au bout du compte, oui. Et puis alors, donc, sur les nids de guêpes, choses comme ça, est-ce que vous intervenez toujours?
Oui, alors.
Et le frelon asiatique, est-ce qu'il est par chez nous?
Alors, je voudrais renseigner les gens, justement, concernant les nids de guêpes que l'on fait dès le mois d'avril, dès les premières chaleurs, jusqu'à fin septembre, mi-octobre. Donc pour le département de la Sarthe, notre intervention, les pompiers se déplacent, c'est gratuit. Alors, on se déplace sous certaines conditions que je ne dévoilerai pas au micro. Et c'est le seul département du Pays de la Loire où on se déplace.
D'accord.
À l'heure actuelle.
Alors le frelon asiatique, est-ce qu'il est chez nous et est-ce que vous intervenez s'il est chez nous?
Il est dans le département de la Sarthe, il y a quelques cas, c'est très très peu, il y a quelques cas. Depuis ces deux dernières années. Alors si nous on intervient et qu'on nous on suspecte le frelon asiatique, on procède pas à sa destruction.
Ouais.
Puisque on peut se faire piquer par le frelon asiatique à travers notre tenue que l'on utilise.
Oui. Redoutable alors.
Redoutable. Et donc, il a été mis en place une consigne opérationnelle. C'est la fédération départementale des nuisibles, ou quelque chose comme ça,
oui.
Qui se déplace, qui confirme que c'est bien le frelon asiatique. Et dans ces cas-là, c'est une équipe spécialisée qui vient du Mans, avec du matériel différent du nôtre et qui procède à la destruction.
D'accord, voilà. Donc ça, fallait le savoir qu'il y avait des procédures spéciales liées à ce frelon asiatique, voilà. Dont j'entendais dire l'autre jour que finalement, il n'était pas plus, enfin, par un spécialiste donc des insectes, qu'il n'était pas forcément plus dangereux que d'autres, sauf qu'il pouvait être plus agressif.
Oui, absolument, il est plus agressif.
Et puis en groupe.
Il est en groupe, il est souvent dans les arbres, en hauteur. Proche d'un plan d'eau. Il faut savoir qu'il est apparu en 2006 sur le territoire français. Très certainement, il est arrivé par une poterie dans le département du Lot-et-Garonne. Hein.
Ouais.
Et après, il s'est beaucoup développé dans le sud-ouest. Et puis là, à l'heure actuelle, il monte vers la région parisienne. Donc, il est installé depuis plusieurs années dans le département de la Charente, la Vendée. Là, il touche les piles de la Loire depuis plusieurs années. Et on s'attend à ce qu'il soit en région parisienne dans les années à venir.
On le sait, les animaux, même pas ceux, même pas par les airs, on a connu la grenouille taureau, on a connu l'écrevisse américaine, qui petit à petit, ces animaux ont colonisé finalement de plus en plus d'espace. Alors, on imagine bien que quelque chose qui se déplace dans les airs, évidemment, peut se développer.
Souci, c'est qu'à l'heure actuelle, il n'a pas de prédateur.
Voilà, c'est ça. On ne peut rien faire contre.
On ne peut rien faire.
Bon, enfin, en tout cas, on vous remercie de ne pas avoir amené un essaim de frelons jusqu'ici. Vous nous avez amené donc ces véhicules pour montrer que vous étiez, vous, les sapeurs-pompiers de Sillegueulmes et globalement les sapeurs-pompiers en France, complètement aptes à intervenir sur toute forme d'accident en matière, matière routière. Un dernier détail, deux chiffres, enfin un chiffre d'abord, Sillegueulmes. Les sapeurs-pompiers, ça représente quelle équipe, quelle brigade ?
Donc, à l'heure actuelle, les pompiers de Sillegueulmes, c'est 27 hommes et femmes. C'est 350 à 400 interventions à l'année, réparties sur 4 équipes. C'est beaucoup d'heures. Et j'insiste pour dire qu'on n'est pas assez nombreux.
Il y a des besoins encore.
Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on a un stand... aujourd'hui sur place, toutes les personnes intéressées, que ce soit, qu'elles soient sur Sillé ou pour d'autres centres, hein, peu importe, les conditions de recrutement sont les mêmes pour tout le département de la Sarthe, que ces personnes qui sont intéressées pour devenir sapeurs-pompiers volontaires, qu'ils n'hésitent pas à venir nous rencontrer, qu'ils n'hésitent pas à venir voir, discuter avec nous. Et je suis là pour donner tous les renseignements concernant un recrutement.
Voilà, celui qui sera là, c'est donc Bertrand Garlot. Un exemple qui nous a été donné, c'est l'exemple de David Hardy, qui est jeune sapeur-pompier, qui nous a expliqué pourquoi, lui, il avait choisi de rejoindre ces jeunes sapeurs-pompiers. Puis un exemple également de sapeur-pompier volontaire devenu professionnel, avec Mickaël Gandon. Vous avez dans quelques instants une nouvelle démonstration. On va donc vous laisser au public, en rappelant donc que pour les personnes qui seraient actuellement en train de se déplacer pour venir sur Sillegueulmes, d'ici une quinzaine de minutes à peu près, ils pourront assister à une nouvelle démonstration avec les pompiers de Sillegueulmes. Merci à vous, messieurs.
On approche et on attend du monde pour une intervention spectaculaire.
Voilà, il y aura du spectacle en plus de l'utilité et de la connaissance scientifique. Merci à vous.